Voilà, c'est tout pour ce matin. On va prier, puis on va se tourner dans Luc 14. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour le soleil, merci pour ton regard bienveillant dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu nous vois ce matin, tu sais où nous nous tenons dans la vie, tu sais l'état de nos cœurs, de nos pensées ce matin, et tu as quelque chose pour nous, tu veux nous parler ce matin, Seigneur, mais pas que ce matin, à tout autre moment dans la semaine, Seigneur. Aide-nous à nous tourner vers toi, aide-nous à nous concentrer sur toi ce matin, à recevoir ce que tu as à nous dire par ta parole, Seigneur, par ton Esprit Saint. Aide-nous à être sensibles à ce que tu as à nous dire et à obéir, à agir par rapport à ce que tu nous dis, Seigneur. Sois glorifié ce matin. En ton nom, nous prions. Amen. Luc 14, 25. On va lire ensemble. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui, en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir ». De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Pour aller où ? Jérusalem. Si vous êtes venus les semaines précédentes, on en a déjà parlé. Jésus qui avait déjà pour objectif la croix, la fin de l'affaire, et qui est en chemin. Et il y a de grandes foules qui viennent avec lui. La semaine dernière, on a vu qu'il a repris les pharisiens, qu'il leur a reproché certaines choses, et puis qu'il a dit... Attention, vous pensez être au banquet au ciel avec Dieu, vous pensez être ceux qui vont y être et vous allez être surpris. Il y a des gens qu'on n'attendait pas qui vont être invités, qui vont être présents au ciel. Et ça devait être un discours qui plaisait aux foules. C'est un peu comme si de nos jours on nous disait oui, les très très riches, les 1% et les politiciens... Eh ben au ciel, ils vont y passer. Ouais, on adore ce genre de truc. Humainement, on aime bien quand les grands, riches, puissants, c'est pas eux qui gagnent. Et c'est en quelque sorte ce que disait Jésus. Il leur disait, pharisiens, vous êtes les puissants, les forts, vous menez la danse actuellement, mais attention, vous allez être surpris au ciel. Ça plaît aux gens. On aime bien ça. C'est notre nature humaine. Et Jésus, lui, il en a toujours un petit peu pour tout le monde. Et il va dire, d'accord, la foule, vous êtes contents, vous me suivez, vous pensez que c'est cool. Vous pensez qu'on est en route pour Jérusalem, pour que j'établisse mon royaume, que j'enlève les Romains, que j'enlève les dirigeants juifs de votre peuple qui abusent de vous, qui profitent de vous. Mais... Il a quelque chose aussi pour eux et pour nous. C'est intéressant aussi de réfléchir à ce contraste. Jésus est en chemin, lui, pour aller à la croix. Et les foules le suivent en se disant, il va aller conquérir et régner. Il va aller être assis sur un trône et ça va être cool et tout, on va avoir un banquet, ça va être chouette. Lui, son objectif, c'est le pire du pire. Et eux, ils sont là pour la gloire, un petit peu, pour l'excitation, pour l'événement. Et il a des paroles qui sont difficiles à entendre. Il leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Dans d'autres traductions, le mot qui est utilisé, c'est si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il les choque, il leur dit, attention, ça va être difficile, il va falloir tout couper. Il va falloir ne pas tenir à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, même sa propre vie. Il leur parle de croix, qui était à l'époque un signe de... C'était pas un petit truc qu'on mettait quand on avait son baptême. C'était un instrument de torture. Il leur parle de guillotine. Et il leur dit ça, il leur dit, vous voulez me suivre, vous voulez être mes disciples, mes élèves. Le mot disciple, ça veut dire apprenti. C'est quelqu'un qui regarde ce que fait le maître et qui essaie de copier, qui essaie de faire pareil. Si vous voulez un exemple, c'est les Star Wars. Il y a le Padawan, quoi. C'est ça l'idée. On regarde faire le maître et on essaie de faire pareil. C'est pas un élève, peut-être au sens philosophique, au sens des Grecs, où c'était juste on écoutait des idées, puis on se recréait d'autres idées. C'est l'idée du compagnon de Tour de France. En France, c'est un système où des gens qui veulent apprendre un métier manuel, qui veulent être ébéniste ou d'autres métiers vraiment manuels, font un tour et ils vont travailler avec des maîtres qui leur montrent, qui font, et eux vont devoir faire comme les maîtres. C'est une question de copie, de comportement. Et c'est ça être disciple au sens où Jésus l'entend. C'est un mot qui est utilisé plus de 200 fois dans le Nouveau Testament, c'est un mot qui revient. C'est un mot qu'on lit vraiment en passant. Mais cette idée de réfléchir à cette idée que c'est quelque chose que l'on écoute et on copie le comportement, notamment ici par rapport à ce que je disais, où le comportement de Jésus c'est d'aller donner sa vie, ça donne d'autant plus de sens à ce qu'il est en train de dire aux foules. Il est en train de dire, vous voulez faire comme moi, vous voulez être mes disciples et copier ce que je fais, voilà ce qu'il va falloir faire. Et l'objectif, c'est la croix. Dans Jean 8, 31-32, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Dans Jean 13, 35, il dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dans Jean 15, 8 à 11, il est dit, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. » Puis dans Matthieu, un autre passage avec ce mot de disciple, dans Matthieu 10, 24, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. » Et Jésus, ici, il veut mettre en garde, d'une certaine manière, mais il veut aussi faire réfléchir et peut-être simplement par amour être honnête avec ces gens qui viennent à lui. il veut qu'ils comprennent vraiment ce que ça implique de le suivre. Il leur dit, vous devez haïr votre père, mère, femme, enfant, frère et sœur, et même sa propre vie. C'est un peu difficile à comprendre ça quand on le lit comme ça. On sait que Dieu est amour, qu'on doit aimer nos ennemis. Jésus le dit quelques versets plus tôt dans le livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'il nous dit, vous devez haïr des gens? Détester. Alors, quand on le lit comme ça, on ne comprend pas vraiment. Et ce qui ressort des commentaires des personnages savants qui vont aller lire l'hébreu, le grec, etc., qui écrivent des gros livres sur un verset, ces gens-là disent que dans le texte original, le mot original, qu'il faut le remettre dans le contexte de la culture de l'époque et que la culture juive et les cultures orientales ont une palette au niveau des émotions qui est différente. Et ils disent, voilà, dans ces cultures-là, c'est pas j'aime un petit peu ou j'aime beaucoup, j'adore, c'est j'aime ou je déteste. C'est, si on aime quelque chose plus qu'autre chose, la deuxième chose, en fait, on la déteste. Et c'est un petit peu une idée de comparaison. C'est de se dire si j'aime vraiment beaucoup quelque chose et qu'il y a autre chose que j'aime juste un petit peu, en comparaison, l'écart, c'est comme s'il y avait de la haine un petit peu. Là, on pourrait presque, en termes de graphique, j'ai failli vous en faire un, c'est un petit peu comme si on faisait un histogramme et on dit, alors, mon amour pour Jésus, mon amour pour les autres choses, alors ma famille, mes amis, et on fait des colonnes comme ça. Et vous avez la colonne pour Jésus qui est super grande sur l'échelle, et la colonne pour les autres choses qu'on ne voit même pas. Et c'est l'idée de comparaison. C'est qu'on aime tellement Jésus que tout le reste, c'est tellement insignifiant qu'on peut l'associer à presque ne pas aimer, quoi. C'est ça l'idée ici. C'est que Jésus doit être le premier, doit être la chose la plus importante. Et tout le reste doit être minime, passé en deuxième. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Et c'est difficile à entendre. On va réfléchir à pourquoi c'est difficile, mais en premier lieu, posez-vous cette question en est-ce que c'est une demande qui est normale pour un dirigeant. C'est là on rentre dans la quand les gens disent j'aime bien Jésus, c'est un homme moral qui avait un bon enseignement. Des phrases comme ça, c'est de la mégalomanie ou du psychopathe. Si Jésus n'est pas Dieu et qu'il nous dit vous devez détester tout le reste et m'aimer que moi. Si un politicien venait ce matin et disait bon, vous devez tout couper avec tout le monde et tout détester, tout ce que moi je vous dirais c'est le truc le plus important, point à la ligne. Soit on le tue, soit on fait une secte quoi, un truc vraiment space quoi, un truc bizarre quoi. On est d'accord. Et dire que Jésus n'est pas Dieu. Si on refuse Jésus en tant que Dieu, les paroles de Jésus ne laissent pas de place pour un grand homme ou un homme bon ou sage. Soit il est Dieu et il y a un sens à ce qu'il dit, soit ce qu'il dit, s'il n'est pas Dieu, alors ce qu'il dit c'est ridicule. C'est intéressant, hein, c'est quand vous avez des conversations avec les gens, ils vont vous dire ah oui, Jésus, oui, tiens, il est bon, mais non, Dieu, non, enfin. je veux dire, montrez-leur simplement des versets comme ça et dites bon, bah, est-ce que c'est bien comme c'est un homme bien, quoi. Alors pourquoi c'est difficile d'entendre ces choses? Parce qu'on est tellement attaché aux choses du monde, aux relations, au matériel, à nos vies, qu'on a du mal. Et quand il nous dit ça, quand Jésus nous parle, quand il parle à nos cœurs, ça pique. C'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace, qui est acérée, qui coupe, qui montre les motivations dans nos cœurs. Quand on dit ça, quand on dit ces choses, vous devez aimer Jésus en premier et tout le reste en second. Je ne sais pas vous, mais souvent, moi j'ai un petit peu on dit oui, mais on essaie de se trouver des petits... Oui, mais Jésus nous demande surtout des choses qui vont bien avec qui on est. Il ne va pas nous demander de faire n'importe quoi quand même. Il ne va pas nous demander de faire des choses au-delà de nos forces. Donc on dit ça pour dire qu'en fait, il ne va pas nous demander des trucs qu'on n'aime pas, quoi. Ce qui n'est pas la même chose, d'ailleurs. Mais est-ce que, par exemple, si Jésus vous met quelque chose à cœur ou si vous lisez la Bible, vous vous dites, tiens, il faudrait que je fasse ça, et puis à cause de... Est-ce que ça vous arrive d'hésiter à cause de personnes, de relations ou de vos biens, de la... Est-ce que si vous avez l'impression que dans une situation, Jésus veut que vous parliez de lui et vous hésitez, c'est que je ne mets pas Jésus en premier comme il me demande de le faire. Si Jésus me demande de donner quelque chose à quelqu'un, du temps, de l'argent, du matériel, et que j'hésite et je me dis « oui, mais je vais peut-être en avoir besoin » ou « moi... » Cette hésitation, c'est la preuve qu'on est malheureusement pas en train d'obéir à Jésus. Et qu'en fait, les choses ou les personnes en question sont plus importantes pour moi que Jésus. On a certaines chansons où les paroles disent « même si tout va mal et si j'ai plus rien, je te louerai, Seigneur. » Est-ce que c'est vrai? C'est des paroles qu'il est facile de chanter, que je chante aisément, et dans la réalité, c'est plus difficile. Est-ce que le soir, quand vous vous couchez, c'est un exercice auquel j'essaie de me prêter de temps en temps, c'est de me dire, Dieu, si un voleur vient cette nuit et me pique tout pendant que je dors, d'accord. Tout ce que j'ai est à toi. Je te le remets pendant que je dors, pendant que je suis couché et que je peux rien faire, ou pendant que je suis parti, que je laisse ma maison, ou j'en sais rien. Est-ce que les choses que j'ai, est-ce que je peux te les remettre et dire, si je reviens et que tout est parti, je serai en paix. Je te dirai, ok, tu me l'as donné, tu l'as repris, Dieu soit glorifié. C'est dur, hein? C'est vraiment dur. Souvent, quand on lit le début du livre des Actes, on voit qu'ils vendaient tout et qu'ils mettaient tout en commun. Et ça nous met souvent très à l'aise, mais mal à l'aise quand on lit ce passage, parce qu'on se dit, bon, c'était un truc culturel de l'époque. Hein, c'était pas vraiment... on n'a pas besoin de devenir des gens de communistes chrétiens, c'est bon je pense pas que le début d'acte soit dise ça. L'idée, c'était pas de nous obliger à tout vendre et à tout donner et à plus rien avoir et que c'est comme ça qu'on est plus spirituel. C'est pas ça que la Bible dit. C'est que on n'est pas attaché. On n'a pas de chaîne attachée à nos biens. C'est que si Dieu nous demande de donner quelque chose, on le donne. Et s'il veut nous donner quelque chose, on le reçoit et on s'en sert pour sa gloire. Une manière de jauger, c'est de dire où va mon argent? Est-ce que quels que soient mes revenus, est-ce que je donne de l'argent pour les autres? pour le royaume de Dieu. Ça donne déjà un début d'indication sur l'état de notre vie spirituelle, l'état de nos cœurs. Une autre réflexion par rapport à cette chose qu'il faut être prêt, entre guillemets, à tout laisser, nos familles, nos biens, même de pas tenir à nos vies, c'est l'idée de la persécution. Nous, en France, on n'a pas vraiment de persécution difficile. Ne soyons pas aveugles pour ne pas croire qu'un jour ça ne puisse pas arriver en France. Est-ce que ce jour-là, on tiendra plus à Jésus ou plus à nos familles et à nos biens, si ça arrivait en France? Je ne sais pas jusqu'où moi je pourrais tenir. Suivant ce que, quand on lit, si vous lisez les récits de ce qu'on fait à des gens aujourd'hui dans certains pays persécutés, je ne sais pas comment je réagirais. C'est peut-être quelque chose qu'il faut garder en tête et qu'il faut se poser comme question actuellement. Jésus n'est pas en train de dire qu'on doit être en conflit avec tout le monde, qu'on doit avoir de la haine et de la colère en tout le monde, entre parenthèses, évidemment. L'amour que nous pouvons avoir, nous, pour Jésus, et l'obéissance que nous pouvons avoir pour Jésus n'est pas synonyme systématique de division avec le monde et avec les gens, avec nos familles. Ça peut arriver, ça peut causer des problèmes, mais c'est pas quelque chose qu'on doit rechercher. Jésus nous dit d'être en paix avec tous les hommes, d'aimer nos ennemis. On a des responsabilités envers nos familles. Dans 1 Timothée 5:8, Paul dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Donc on est clair, l'idée c'est pas de dire « Je pars en martyr et je me brouille avec tout le monde. » Et c'est pas ça l'idée. Je pense que l'idée, c'est par rapport à la famille, par rapport à ma propre vie, par rapport à mes biens, c'est peut-être simplement que des fois le bon peut être l'ennemi du meilleur. Que la meilleure chose, c'est de suivre et d'obéir à Jésus, et qu'il y a d'autres choses qui peuvent être bonnes, que Jésus peut nous donner, mais qui peuvent venir empêcher et entraver ce qui est le meilleur. Il parle de la croix. Si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il ne peut pas être mon disciple. À l'époque, comme je vous ai dit, c'était un synonyme de mort, synonyme d'exécution, synonyme de mort lente, atroce, de honte pour les familles liées. Il y avait rien de positif dans l'idée de la croix. C'était quelque chose de complètement atroce jusqu'au bout. Je sais pas si on a vraiment des choses qui peuvent avoir cette connotation, nous, de nos jours. Peut-être la guillotine, bien que ce soit plus vraiment, c'est un peu comme si on vous disait, bon, bah, vous allez porter une belle chemise orange avec marqué condamné à mort, avec une guillotine sur roue. Et vous allez faire le tour de la ville avec un mégaphone en disant « Venez me voir mourir. Venez me voir mourir. » Et vous faites le tour de la ville et puis vous arrêtez sur place Masséna et on vous exécute. C'est ça l'idée de la croix. C'était on vous faisait porter le truc, vous faisiez le tour et puis les gens vous voyaient passer et se disaient « Lui, chouette, on va aller regarder une exécution. » C'est ça l'idée là. Jésus choque les gens ici. C'est les foules qui viennent, qui se disent « Chouette, ça va être la fête à Jérusalem » et il leur dit « Si vous prenez pas la croix, vous pouvez pas être mon disciple. » Alors, portez la croix. Jésus est pas en train de dire qu'on doit aller mourir physiquement, littéralement aujourd'hui. L'idée de prendre sa croix, de renoncer à soi-même, de haïr sa vie, c'est l'idée qu'on donne la plus grande importance à la volonté de Dieu. La croix que nous devons porter, C'est pas l'idée qu'il y a des choses qui nous embêtent ou des souffrances qu'on doit endurer ou une personne qu'on n'aime pas qu'on doit voir tous les dimanches matins à l'église etc. La croix que Jésus nous demande de porter, c'est l'idée de faire la volonté de Dieu pour nous, pour chacun dans nos vies. C'est ça la croix que nous devons porter. C'est l'idée que nous disons à Dieu, je ne fais aucun cas de ma vie, comme Paul le disait, et j'essaye de faire ce que tu veux. Dans le cas de Jésus, ce que Dieu voulait, c'était qu'il aille à la croix. Il lui a dit, va à la croix. Et Jésus a dit, d'accord Dieu, je vais à la croix. Et Jésus nous dit, vous devez faire pareil, vous devez demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? On doit se considérer comme mort. La vie de disciple, c'est pas une vie de groupie où on suit le groupe et on est là, on fait la fête au premier rang et tout est bien et c'est chouette, où on profite un petit peu par extension de la gloire de celui qui à côté de qui on est. La vie que Jésus veut pour nous en tant que disciple, c'est une vie de soldat qui suit des ordres. C'est une vie de quelqu'un qui dit, c'est toi le chef, je veux faire ce que tu me demandes de faire. Est-ce que vous avez déjà lu des récits détaillés de certaines guerres ? Récemment, parce qu'on regardait un petit peu avec mon père et mon frère notre généalogie, j'ai deux arrières, grand-pères, grand-oncles, qui sont morts à la guerre de 14-18. Et quand on va chercher un petit peu, on trouve des récits du front. Et le comportement des soldats dans ces guerres me mystifie. Il y avait des moments où les chiffres, c'était genre sur une colline, en une journée, ils balançaient 500 000 bombes et on envoyait des mecs en colonne par dizaines de milliers. Et on leur disait, vas-y, ok. Ils montaient, boum, 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 boum. C'était comme un hachoir. C'était tellement fou, ils avaient aucun espoir de s'en sortir. Ils étaient sûrs d'y rester. C'était tellement fou de se dire qu'ils étaient prêts à dire d'accord et j'avance. J'arrive pas à comprendre ce comportement. Et malheureusement, c'est un petit peu le comportement que Jésus me demande d'avoir. Alors c'est pas la même avec la même mort et il y a un espoir et Dieu nous aime et est bon et il y a quelque chose de bon là, mais l'idée c'est que être son disciple c'est mourir à soi continuellement, c'est de dire Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu veux que j'aille sur cette colline, d'accord. Paul dans Philippiens 3 verset 10 disait, mon but est le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant comme à lui dans sa mort, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. On aime bien en général les lettres de Paul, mais quand il dit je veux le connaître et communier dans ses souffrances, on l'aime un petit peu moins. C'est difficile. Jésus marche avec nous sur ce chemin, il nous aide, il veut nous conforter, mais il veut que nous soyons au courant que ce qu'il nous demande, c'est de faire sa volonté. Verset 28, car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever ». Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Est-ce que vous avez déjà bâti une tour ? Quelqu'un ? On avait pendant un moment un maçon portugais qui bâtissait, qui venait à l'église, qui bâtissait des tours, qui a travaillé par exemple sur le stade. Mais sinon, je ne sais pas exactement comment calculer la dépense pour bâtir une tour. À l'époque, c'était peut-être quelque chose de plus commun ou quelque chose qu'il comprenait plus. On comprend l'image quand même, l'image de ce que vous avez déjà vu. Alors, en France, on le voit moins. De temps en temps, on voit des chantiers où c'est interrompu. Vous avez déjà vu ça? Ça peut être, j'en sais rien, peut-être ils n'ont pas eu les autorisations. Ça peut être... Oui, mais qui sont encore en travaux, qui peuvent être mal placés sous des pylônes électriques. Des fois, les gens se mettent à construire et puis la ville leur dit non, vous aviez pas le droit. Et donc là, c'est à moitié bâti. Dans certains pays du tiers-monde, je sais que ça se fait. Au Mexique, quand j'étais en lune de miel, ou au Maroc, ça m'avait choqué un petit peu, où ils construisent un étage. Puis il y a les trucs métalliques qu'ils laissent et ils se disent bon... Eux, l'idée, c'est qu'ils n'avaient pas de quoi construire tout ce qu'ils voulaient faire, mais ils se disent, on va préparer, et le jour où on aura l'argent, on construira un étage de plus, etc., on étendra. Mais ça donne une situation un peu bizarre, une atmosphère un peu bizarre, quand on voit des trucs pas finis comme ça, et on se dit, bon... À l'époque, apparemment, on se moquait. On se disait, regardez-lui, il a même pas réussi à calculer, il a pas réussi à finir sa maison. Jésus veut qu'on réfléchisse. Jésus veut qu'on pèse, qu'on soit au courant de ce que ça coûte. Romains 12:1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça, on doit être un sacrifice vivant pour Dieu. Et c'est ça que Jésus veut qu'on comprenne, il veut qu'on voie que ça, il y a un coût. Il dit, c'est aussi comme l'idée de partir en guerre. Vous n'avez pas organisé de guerre, si? Pas que je sache parmi nous. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, peut-être plus pour les hommes, dans une situation d'évaluer le physique de la personne en face de vous qui vous a énervé et de vous dire il est petit, je peux m'énerver, c'est un gros molosse, j'ai intérêt à être gentil avec lui sinon il va me casser la figure. On a cette sagesse de réfléchir dans certaines situations. Et des fois, est-ce que vous connaissez des petits teigneux qui s'énervent quand même, alors qu'ils vont se faire battre à plate couture, ils s'énervent quand même. On se dit que ces gens-là n'ont pas beaucoup de sagesse. C'est un petit peu ce que Jésus est en train de dire. Si vous voyez arriver 20 000 soldats et que vous en avez que 10 000, sur un malentendu, sur un miracle, oui, peut-être, mais c'est plus raisonnable de réfléchir à la chose et de prévoir. C'est l'idée de préparer ses projets, de préparer, de réfléchir, d'avoir de la sagesse, de réfléchir à ce que ça va nous demander. Il y a pas mal d'idées avec ces deux exemples. L'une, peut-être la plus simple et qui semble la plus évidente, c'est de dire quel est le coût, qu'est-ce que ça va me coûter pour être disciple de Jésus, hein. C'est qu'est-ce que ça implique pour moi? Une autre idée, c'est peut-être que ça va coûter plus cher qu'on ne le pense. Est-ce que vous connaissez des États ou des pays ou des villes qui ont déjà réussi à finir un grand projet de construction dans le budget? En tout cas, pas dans les pays du Sud. Peut-être les Allemands ou les Suédois sont plus... Mais en général, quand on nous annonce que la ligne 2 du tram va coûter 150 millions, hein, même si on ne réagit pas de manière audible, on a tous, au fond de nous, cette pensée que, d'accord, au mieux on est à 300, Au pire, on est à 1 milliard. On ne sait pas, c'est des chiffres tellement gros que de toute manière, on peut les balancer comme ça. C'est pour amuser la galerie. Si ça vous amuse et que vous avez envie de vivre un moment interactif par rapport à l'enseignement de ce matin, allez place Garibaldi, il y a un kiosque qui vous explique la ligne 2 du tram et vous disent, bon, on fait entrer un truc, on fait un tunnel, on ressort, dans 2 ans c'est plié, tout va bien, ça va coûter tant, et voilà. Le kiosque sera parti, je pense, d'ici 1 an, comme ça ils n'auront pas à répondre aux questions quand ça ne sera pas tenu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de guerre qui ne coûte pas très cher ? Les chiffres sur les guerres, c'est des chiffres astronomiques aussi. Où on part, il y a quelques années de ça, la guerre en Irak pour les États-Unis, j'avais lu un article où il disait, et c'était il y a quelques années, avec tout l'argent que les Américains ont dépensé jusqu'à maintenant, on aurait pu donner 20 000 dollars à chaque Irakien. Et c'était il y a quelques années. Donc peut-être que l'image, là, c'est que ça va nous coûter aussi plus cher qu'on ne le pense. C'est un petit peu négatif comme image, mais de réfléchir à ce que ça coûte, de ce que ça implique. Et pourquoi est-ce que Jésus voudrait qu'on réfléchisse à ça, ou pourquoi est-ce qu'il voudrait insinuer que ça va nous coûter cher et qu'on a intérêt à y réfléchir? C'est que Jésus, lui, d'une certaine manière, bâtit son royaume, bâtit son église, et il n'a pas envie d'avoir des gens qui sont pas fiables, des gens qui sont pas qui vont pas servir comme il faut. Est-ce que vous avez envie de bâtir un immeuble? La Bible nous dit que nous sommes, l'église est un organisme vivant et que nous sommes des pierres vivantes. Est-ce que dans un immeuble vous avez envie qu'il y ait une colonne qui soit construite en mousse? Est-ce que vous avez envie qu'il y ait c'est l'idée. Jésus, il n'a pas envie qu'il y ait des chrétiens en mousse. Qui, quand il y en a besoin, quand l'église en a besoin, qui s'écroule. Il veut qu'on pense, qu'on pèse le coup, qu'on réfléchisse à ce que ça va coûter. L'idée de partir en guerre. Si vous avez des soldats et que vous avez le front et qu'il y en a une rangée de 10 qui s'en vont en courant parce que il valait mieux les avoir dès le début, on aurait pu resserrer les lignes et on aurait été mieux que si on n'avait pas appris les gens. Jésus, il veut pas de nous si on est tiède. Il a déjà dit, on l'a dans d'autres passages de la Bible, il le dit, c'est répété, il veut des gens qui soient conscients de ce que ça implique. Il veut des gens qui y aient réfléchi. Il veut des gens sages. Jésus nous aide, nous fait grandir, il est plein de grâce et de miséricorde, il nous écrase pas, il nous condamne pas quand nous échouons une fois, il nous pardonne. Mais Jésus veut qu'on réfléchisse à ces choses. Les foules qu'il suivait, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour la fête, quoi, et qui étaient pas là pour endurer, pour bâtir son royaume. Et Jésus voulait un petit peu faire le tri, voulait qu'ils évaluent. C'est souvent on dit que l'Église dans les pays persécutés est plus vivante et plus efficace parce que il y a un écrémage naturel qui se fait. Les gens qui sont pas vraiment, qui ont pas pesé le coup, qui ont pas réfléchi à ce que ça implique vraiment, ils sont pas là. Et d'une certaine manière, Jésus, c'est presque comme s'il dit, je préfère ça. Alors, on peut évaluer ce que ça implique de suivre Jésus. Une bonne question à se poser quand on se dit, c'est difficile et j'ai du mal à envisager de payer ce prix-là, c'est évaluer le coût que ça va vous coûter, évaluer ce que ça va vous coûter si vous ne suivez pas Jésus. C'est une autre bonne question et qui permet de donner un petit peu plus de légèreté et d'optimisme à ce message. On doit renoncer à ce qu'on possède. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir dire Dieu ce que j'ai, si tu me le reprends, je te loue. Quand même, c'est à toi. Verset 34. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Un petit point que j'ai oublié sur le précédent, c'est l'idée que quand on annonce l'évangile, le fait d'annoncer un évangile de paix, de bonheur, de richesse et de prospérité, ça ne profite en général pas à l'Église ou au royaume de Dieu. Parce que les gens qui viennent, viennent pour les mauvaises raisons. Si on vient parce qu'on vient pour servir Jésus par amour pour Jésus et pour faire ce que Jésus nous demande, c'est là que l'Église grandit, que le royaume grandit vraiment. Mais si on dit aux gens « Ah ouais, t'as des problèmes, bah viens à Jésus, ça va être bon. Ben... » C'est pas vraiment le message de Jésus. J'ai du mal à voir dans le discours de Jésus ce genre d'annonce. Il nous dit « Oui, je vais vous consoler, je suis avec vous dans la difficulté, je pourvois, j'aide, je vous aime. » Mais il dit jamais c'était ce que les foules voulaient entendre. Et lui, justement, il les corrige. Et donc au verset 34, il leur dit « Le sel est une bonne chose, mais quand il n'agit plus, il ne sert à rien. » C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a déjà entendu. Dans Matthieu 5, 13, il est dit « C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Et dans Marc 9, verset 50, « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Le sel, de nos jours, peut-être un petit peu moins important. À l'époque, et pendant une bonne partie de l'histoire humaine, c'était un bien précieux qui servait à conserver les aliments, qui ralentissait la pourriture, qui empêchait les aliments d'être mauvais. Ils n'avaient pas de frigo, ils n'avaient pas de conservateurs chimiques dans les aliments. Et donc c'était quelque chose qui était très important, c'était quelque chose d'économiquement essentiel. Lindsay et moi, on est allés quelques jours pour notre anniversaire de mariage à Saorge, et la route de Saorge était une route importante parce que c'était la route du sel pour l'Italie. Et ils ont construit des forteresses pour contrôler le passage de ces marchandises et ce sel qui passait. D'ailleurs, le mot « salaire » est apparenté étymologiquement au mot « sel ». C'était presque comme de l'argent, le sel. C'est aussi quelque chose qui donne du goût. On peut le mettre dans les aliments. Et c'est quelque chose qui pouvait servir à l'époque pour l'agriculture. De nos jours, peut-être moins, on a des choses mieux adaptées. Mais il y a quelques bonnes idées là par rapport à ce que nous devons être, comment nous devons être. Et ici, alors, ce que je disais à propos de Jésus qui disait on ne doit pas être tiède, c'est comme le sel. Si le sel, à l'époque, ils avaient parlé d'un sel pur et ça pouvait être avec des imperfections et au bout d'un moment, c'était le sel perdait son efficacité. Alors il ne servait plus à rien. Et Jésus nous dit que pour les chrétiens, si on perd ce qui fait notre caractère, ce qui doit faire notre caractéristique en tant que chrétien, si on n'a pas ces choses-là, alors on ne sert à rien. On gaspille le temps de Jésus, on gaspille le temps des autres. Il y a quelques semaines, on disait que le fait d'être inutile dans le royaume de Dieu, c'est inviter au désastre. Dieu n'aime pas les choses inutiles dans son royaume. Et Jésus veut des chrétiens qui soient à fond pour lui. Nous avons une utilité, un rôle à jouer, un plan que Jésus nous a donné, que Dieu veut nous donner, que cette croix à porter, cette volonté. Et si on ne respecte ou si on n'essaye pas de faire ça, si on ne veut pas suivre ce qu'il a pour nous, on ne sert pas et on risque d'être jeté dehors. On doit avoir une foi et une vie qui combat la pourriture, la corruption du monde. On doit être la conscience de notre voisin, de nos collègues de travail, de nos familles. Quand les gens autour de nous ont certains comportements, quand ils disent certaines choses, est-ce que nous sommes des gens qui leur faisons comprendre que ce qu'ils font est mauvais? Est-ce que quand quelqu'un a, j'en sais rien, peut-être des propos pleins de haine ou de racisme autour de nous, est-ce qu'ils se sentent en liberté pour le dire autour de moi, ou est-ce qu'ils se disent « Ah oui, il y a Tonio là, il va encore me casser les pieds avec son truc là ». On n'aime pas ça au travail aussi, parce qu'il y a des blagues salaces. « Ah, il y a encore le chrétien là qui ne va pas aimer ma blague ou qui va me dire que ce n'est pas bien ». On peut ne pas aimer ça, mais c'est un bon signe, si c'est le cas. C'est ce que Jésus veut que nous soyons. Le chrétien doit être la conscience de son voisin, l'Église doit être la conscience de l'État. Si la foi est vraie dans ma vie, je dois inciter les gens autour de moi à un comportement différent. Je dois dénoncer les mauvais comportements, c'est les charbons ardents dont Jésus parlait, qu'on met sur la tête des gens qui font du mal, et ils ont cette conscience qui les accuse. Est-ce qu'on donne du goût à la vie des gens autour de nous? Est-ce qu'on donne une alternative au désespoir, à la tristesse, à la morosité, au pessimisme? On avait dit qu'un chrétien triste, c'est pas un bon exemple. Ça m'a repris cette semaine, et encore en étudiant, parce que j'étais vraiment découragé à cause de problèmes administratifs et de paperasse, et Dieu veut que nous soyons pleins de joie et d'espoir, de gentillesse, d'amour, de courage. On doit donner du goût à la vie pour les gens autour de nous. On doit permettre aux bonnes choses de pousser et aux mauvaises de disparaître. On doit être des disciples qui assaisonnons les vies autour de nous, nos proches, nos amis, l'Église, nos ennemis, la société. Et peut-être une dernière petite considération, c'est que le sel, en général, ça donne soif. Et c'est aussi quelque chose où on peut se dire, est-ce qu'on donne envie aux gens de Jésus? Est-ce qu'on leur donne soif de quelque chose d'autre? Donc là, Jésus, il nous dit, être mon disciple, ça a un prix. Mais ce prix, il donne une vie salée qui va avoir un effet autour. Prions. Jésus, merci pour ces paroles, merci pour ta vie, merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu es mort pour nous, merci parce que tu as obéi et tu es allé à la croix, que tu as évalué le coût, Seigneur, tu as évalué ce que ça allait te coûter et tu l'as donné volontairement, Seigneur, pour nous sauver, par amour pour nous, Seigneur. Et nous, à réfléchir, à méditer, Seigneur, ces paroles, à méditer ta vie, ce que tu as fait pour nous, ce que tu es pour nous, et à considérer ce coup, à considérer cette vie que tu veux pour nous. Seigneur, ce ne sont pas des choses qu'on peut produire par nous-mêmes. On a besoin que tu nous aides, et surtout on a besoin que tu nous remplisses de ton esprit, Seigneur, pour porter ce fruit, pour que ce fruit soit produit en nous par notre amour qui nous incite à l'obéissance, Seigneur, qui nous donne envie de te suivre, de t'obéir. Seigneur, Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions t'aimer et t'obéir, Seigneur. Cette semaine et dans nos vies, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen.